22h-23h, c'est la playlist de ta vie sur RMC Gold.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RMC Gold dans ce vendredi pour cette émission mythique, culte. J'arrête pas de dire ça tous les vendredis soirs, mais j'espère qu'un jour elle deviendra cette émission culte. Ça, je l'espère. En tous les cas, c'est la playlist de ta vie. Un invité qui, une fois accepté l'invitation, pendant une heure dans les studios, est à nos côtés pour évidemment parler de musique, pour parler de son enfance, de son adolescence et de tout ce qu'il aime et de son actualité. Avant de vous présenter vraiment officiellement et qu'il ne prenne la parole, on va écouter deux, trois sons pour essayer de deviner qui est notre invité du soir. Écoutez d'abord ceci. Imaginez le nombre de fois que j'ai joué ce titre-là à l'époque, Fun Radio, dans la libre antenne. Voilà, fais-moi jouir. Il y avait également ceci. Voilà, ça y est, tout le monde a deviné. J'aime regarder les filles, 1981, mais également ceci. Single récent de notre invité du soir dans la playlist de ta vie, vous l'avez sûrement reconnu, et bien c'est Patrick Coutin qui a accepté cette invitation sur RMC Gold. Bonsoir Patrick.
Accepté avec plaisir.
Ah bah c'est, franchement c'est très sympa. On a eu l'occasion, on en parlait aux antennes, de se croiser une fois il y a très longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour une émission spéciale de Maurice, un animateur radio que j'adore, qui était sur Skyrock, qui était sur WeFM, qui vous avait invité pour faire des concerts. Il fêtait ses 20 ou 25 ans de libre antenne et j'avais accepté de venir, ce qui était assez rare. On avait fait un peu de libre antenne ensemble. Et vous étiez là et on a immortalisé ce grand moment avec une très belle photo que j'avais mise sur les réseaux sociaux, qui avait fait à l'époque un carton monumental.
Oui, voilà, c'est de votre faute, hein. Je décline toute responsabilité
parce que bon, je remettrai peut-être la photo de ces quatre en story. Mais c'est un bonheur que de vous recevoir, évidemment. Alors si vous êtes là, c'est pour l'actualité et grosse actualité puisque mine de rien, j'aime regarder les filles. Ce tube culte de 81 va fête ses 45 ans et je crois qu'à cette occasion vous allez faire une tournée et ça servira un petit peu de d'hameçon pour c'est ça pour la tournée.
On va le ressortir, d'abord le l'album parce que l'album n'est plus disponible, il ressort tous les 5-6 ans, mais là on va ressortir des versions.
Ah, moi je le cherche en version originale, je vais souvent dans les magasins opus, je ne le trouve pas. Il est culte total.
Hein. Je l'ai plus et je pourrais même plus me le payer.
Il va être réédité là.
Ah ouais. Donc on va le rééditer pareil, exactement pareil, même pochette, même note de pochette, etc. etc.
La pochette d'ailleurs au personnage est incroyable. Je l'adore. Elle est magnifique, ouais. Et ça va sortir avec des remixes aussi, il y aura d'autres.
Non, on va le sortir dans la version originale parce qu'il y a, il y a des gens qui la demandent. Et c'était un vinyle. À
oui, l'époque. J'ai le maximum.
On va ressortir le vinyle et le CD qui est sorti par la suite, comme ça. Et puis les concerts qu'on va faire cette année, ça va être un peu sous le signe de ce premier album. À la fois en faisant j'aime regarder les filles, que évidemment, si je ne faisais pas ça en concert, ça finirait mal. Mais aussi des titres de ce premier et du second album de cette époque.
Puis ce morceau que j'ai passé tout à l'heure pour la blague, mais qui a quand même extrêmement bien tourné, fais-moi jouir. C'était vraiment ça c'était sympa ça aussi quand c'était sorti à l'époque.
Hein. C'était pour rigoler, c'était dans le premier album. Ouais. Sauf que le directeur, le patron de c'était pas encore CBS, c'était CBS et pas Sony Music, avait refusé que ça sorte sur le premier album en disant moi j'ai des enfants de 12 ans, c'est un tube, je ne veux pas rentrer chez moi et entendre ma fille chanter pour moi jouer.
Donc du coup,
je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il est arrivé dans les radios FM, dans les années 82, voilà, disant le titre interdit de Patrick Coutin. Et du coup, on l'a ressorti par la suite pour le mettre à disposition.
Ouais, et puis il a fait un gros buzz, j'en parle souvent avec mes équipes, mais moi, je connaissais évidemment ce titre-là à l'époque et je le jouais un petit peu à la radio. Ça m'était sorti de la tête. Et je crois qu'il y a quelques années, je sais pas si vous en avez eu vent, Guillaume Canet, l'acteur, est un fou de ce morceau-là. Ouais, il le connaît sur le bout des doigts. Ouais. Et un jour, il en avait fait carrément une vidéo qu'il avait mise sur son compte Instagram et ça avait fait énormément buzzer. Les gens se disaient, mais c'est quoi ce titre-là? Bah oui, c'est Patrick Coutin.
Ouais, je me souviens de ça. Ouais, j'avais vu cette vidéo. Je crois même que j'avais dû la partager.
Extraordinaire. On va parler évidemment de musique pendant une heure avec Patrick Coutin. On va revenir sur votre début, jeunesse. Déjà, le lien que vous avez avec la musique, évidemment, elle est quotidienne. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez quotidiennement? Vous cherchez toujours à découvrir de nouveaux artistes? Est-ce que de la musique, vous en écoutez matin, midi et soir ou c'est pas le cas?
Alors d'abord, j'ai pas le temps d'en écouter tant que ça. J'en écoute quand je suis en voiture et j'en écoute quand je suis en train de faire ma gym, pour tout vous dire. Sans quoi j'en fais. Donc ça prend du temps de faire des
énormément, énormément.
Mais dès que je suis en bagnole, je suis comme tout le monde, j'ai un provider.
Donc, ouais. une playlist et tout.
Qui m'envoie non seulement les playlists que j'aime, parce qu'il a compris avec le temps, mais qui m'envoie aussi des playlists actuelles, soit de rock américain.
Des suggestions, anglais, comme on dit. C'est-à-dire, oui, si vous aimez ça, vous pourriez aimer ça.
Vous pourriez aimer ça, voilà. Et donc, quelquefois, j'entends des trucs qui
d'accord
me plaisent.
D'accord. Vous êtes toujours à l'écoute, à la recherche de quelques nouveautés. Vous regardez, vous suivez un peu les nouveaux artistes ou
Je ne les suis pas vraiment, parce que c'est pas si simple de les suivre, c'est pas si simple d'aller chercher un album et de le passer chez soi. C'est possible, mais je le fais pas, mais j'essaie de trouver des artistes en français qui ont des textes qui m'intéressent, et il y en a, même si je les mélange un peu.
Ouais.
Et j'essaye de trouver des groupes ou des artistes anglais ou américains qui ont l'énergie rock que j'aime dans cette musique.
Alors on va en parler évidemment dans la playlist de ta vie. Il y a des choses que je n'ai pas données, quand même des chiffres qui font tourner un petit peu la tête quand même, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on pense évidemment à ce titre-là, J'aime regarder les films. Il y a quand même 14 albums, c'est 14 albums studio, ou parmi les 14 il y a du live, ou c'est 14 albums studio, je vous mets un doute.
Il y a un live.
12 fois classé dans le top album français. Mmh. Ça c'est quand même pas mal, et puis évidemment pas mal de tournées à venir, et on va en reparler tout à l'heure. Alors on va parler maintenant de, et on va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez eu de la difficulté à remplir le questionnaire de la playlist de ta vie ou pas?
Oui, parce qu'il y a tellement de titres intéressants qu'on aimerait en mettre 3 à chaque fois, mais je me dis, mais c'est pas le jeu d'en mettre 3.
Non, il faut en mettre 1. Mais
donc ça demande un peu de réflexion.
On va citer les autres, évidemment. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier souvenir musical de Patrick Coutin. C'est lequel et à quel âge?
Alors, il y en a plusieurs qui se mélangent. Il y a Johnny, il y a Françoise Hardy et il y a Antoine. Mais je pense que mon premier souvenir live, en tout cas, c'est Johnny. J'avais entendu l'album. Et je l'ai vu sur scène à côté de Saumur, dans une scène littéralement publique. Et si on parle bien de celle-là, c'est bien.
Il y avait Françoise Hardy aussi, que vous aviez cité. Ouais. C'est la même période.
Voilà. Alors l'autre, c'est Françoise Hardy. Ça, c'est à la télé. Je regardais pas la télé. On n'avait pas le droit de regarder la télé à l'époque. Et un jour, on va chez des amis. Et on était un dimanche. On attendait le déjeuner et passe à la télé Françoise Hardy.
Et là, c'est la révélation.
Je suis tombé amoureux, là.
Ah bon, déjà, physiquement, magnifique.
Je veux dire, elle était magnifique.
On va pas se mentir,
Elle chantait avec une douceur incroyable, etc. J'avais, je sais pas, peut-être 12, 13 ans. C'était la petite copine idéale.
Ouais, elle avait quel âge? Elle avait
18 ans. C'était son premier titre. Quand elle a commencé, c'était, pour moi. Et j'ai suivi toute ma vie. Je l'ai rencontrée par la suite. On a eu le même disquaire parce qu'elle allait au drugstore qui est à côté de la gare Saint-Lazare.
Donc vous avez fini par sympathiser avec elle et...
Énormément, parce que j'étais très intimidé, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé d'une grande beauté, d'une grande intelligence, d'une grande culture et d'une délicatesse
absolument magnifique. On rappelle pour les plus jeunes qui nous écouteraient, la compagne de Jacques Dutronc, bien évidemment, dont elle a tant souffert, et ils ont fait des choses absolument magnifiques, et on parlait de sa beauté également, parce qu'à la télé ça se voyait, absolument dingue, tout le monde est tombé amoureux d'elle, vous l'étiez devant votre poste de télé, mais je crois que Bob Dylan l'était, Mick Jagger l'a été, c'était dingue.
C'était la beauté et la grâce faite, et en plus c'est une fille qui avait la tête extraordinairement bien faite, et qui avait une pensée très en avance sur son temps, qui écoutait... et qui lisait des choses qu'on ne lisait pas encore à l'époque.
Et puis je crois qu'elle était très amie également avec les Beatles ou avec Paul McCartney. En tout cas, c'est magnifique. Ouais,
moi, si j'avais été pote de son âge, j'aurais tué les autres pour les voir.
Voilà, Patrick Coutin, notre invité de ce soir jusqu'à 23h dans la playlist de ta vie. On va écouter le premier souvenir musical, c'est Françoise Hardy. Voilà, tous les garçons et les filles de mon âge, et c'est tout de suite sur RMC Gold. Thank you. dans la playlist de ta vie grâce à Patrick Coutin, c'est Françoise Hardy, les filles de mon âge, toutes les filles, les garçons. Ça, alors, on parlait de la musique et on parlait des voix, on parlait aux antennes, vous disiez que c'était loin d'être évident et qu'elle chantait déjà extrêmement bien, et que c'était pour l'époque très moderne ce qu'elle interprétait et le style.
Ah bah parler d'amour à 18 ans, c'était pas, ça se faisait pas.
Ça se faisait pas.
J'aurais été supposé dire l'école est finie.
Ouais. Voilà. Oui, c'est ça la différence entre cette époque-là avec les fameux Sylvie Vartan ou les Sheila qu'on évoquait. Elle a mis un petit coup de boost.
Elle a mis un coup de charme. Et elle a mis une façon de parler d'amour de façon très pudique quand même, ouais. mais qui n'était pas si courante que ça. C'était rare, quoi.
On va parler maintenant de l'adolescence, on va faire un bond en avant. Là, vous aviez quel âge à peu près, là, quand vous avez découvert Françoise Hardy devant la télé?
Peut-être 10-12 ans.
10-12 ans.
En 62, 63, je sais pas trop, je me souviens plus, mais j'étais gamin, puisque j'avais pas le droit de regarder la télé. La télé noir et blanc était dans le salon, chez les gens. Le parc du salon était fermé à clé pour que les enfants ne le regardent pas. On y rentrait une fois par semaine pour regarder un épisode de Zorro. Et on en ressortait aussi sec pour aller faire ses devoirs.
Ouais. Donc, les seuls qui avaient autorité sur la télé, c'était les parents.
Ah bah oui,
exactement. L'adolescence de Patrick Coutin, justement, c'était comment? Si on fait un tout petit bond en avant, on avance de 4-5 ans, vers 15-16 ans, comment ça se passait? Vous étiez déjà à fond dans la musique ou vous étiez encore...
C'était en train d'arriver. Il y avait des choses que j'aimais beaucoup. Alors... Quand on a 16 ans, les gamins de 16 ans et les gamines vous le diront, on a besoin de s'identifier à d'autres personnes que sa famille, ses copains d'école, etc. À l'époque, il y avait quand même des artistes très intéressants. J'ai parlé de Johnny, tu disais, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait des mecs comme Jean-Jacques Debout, par exemple,
ouais.
Qui, si je me souviens bien, chantait une chanson qui disait « Je suis sous ton balcon », quelque chose comme ça.
Ouais.
C'était aussi une chanson, alors lui, un peu provocant, mais caché.
Le compagnon de vie de Chantal Goya.
Il commençait à y avoir plein de musiques intéressantes, et puis d'un autre côté, arrivaient d'Angleterre les Beatles, un certain nombre de groupes
les Stones,
qui étaient très 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 intéressants et qui semblaient être un peu provocants.
Ouais.
Et à 16 ans, quand on veut pousser un peu les portes et dire que le vieux monde vous ennuie, c'était une musique qui nous aidait à faire ça.
Et donc, vous l'écoutiez où? Donc il n'y avait pas la télé, c'était un peu la radio,
alors,
c'est les copains.
Il y avait le début de Salut les copains. Je ne sais pas si vous. Vous n'étiez pas né.
Non, mais c'était sur Europe 1. C'était ça.
Oui, je ne sais pas. En tout cas, on avait le droit quelquefois à la récréation. Moi, je m'avais mis en internat parce que j'arrêtais pas de faire l'idiot. Et à la récréation, quelquefois, les pions, qui avaient 21 ans, 22 ans, mettaient ça. Donc nous, on s'approchait, on écoutait en même temps qu'eux.
Salut les copains, il faut dire aux auditeurs, c'était une émission de radio dont j'ai oublié qui était l'animateur, c'est quelqu'un de très connu. Mais Jean-Marie Perrier, après, a fait une photo mythique où il a pu regrouper tous les yéyés, tous les gens des années 60. Donc de Adamo à Eddie Mitchell, à Dick Rivers, Sylvie Vartan, ils étaient tous là. C'était cette époque-là. Et c'est là où, justement, la génération de jeunes que vous étiez a commencé à écouter la radio et découvrir ces artistes-là qui reprenaient régulièrement des chansons qui venaient plutôt, qui étaient anglo-saxonnes, qui étaient retraduites en version française, c'est bien ça ?
Bien sûr, quelquefois, y compris, par exemple, la version de Johnny de Hey Joe, qui était un tube à l'époque, était en fait le playback de la version de Hendrix.
De Jimi Hendrix, la version originale, bien sûr.
C'était la version originale. Donc, non seulement il reprenait, mais quelquefois on rachetait les playbacks, il fallait adapter en français. Il y avait très peu de musique en anglais sur les radios et les télévisions françaises. C'était pas interdit, mais les Français comprenaient pas très bien l'anglais.
Ouais.
Donc ça voulait pas dire grand-chose. Et oui, les 90% de la musique, sauf Brel, Brassens et Léo Ferré et Jean Ferrat,
Aznavour
était en... Mais ça, c'était la musique des vieux, ça.
Ouais, c'est ça.
Pour nous.
Ouais, ouais.
Ces gens-là étaient en français et des compositions originales. Mais à l'époque, tout ce qu'on appelait les yéyés,
Clo-Clo d'ailleurs, Clo-Clo,
c'était des chansons qui en général venaient d'Amérique ou d'Angleterre et qui avaient fait numéro un déjà chez elles.
En dehors des Beatles, en dehors des Rolling Stones, qui d'autre encore vous vient à l'esprit que vous écoutiez à la radio? Est-ce que c'était encore le cas des Who, les Doors? C'était peut-être
Les Who, les Doors sont arrivés en 64, mais on les a découverts en 65.
Ouais.
Les Who, c'est à peu près toute cette période. C'est un tout petit peu plus tard et c'est encore une autre révolution.
Ah, c'est encore autre chose, ça. Ouais.
C'est une autre révolution.
Avec les Led Zeppelin et compagnie. Là.
C'est ce qui amène à mai 68, la révolution de la jeunesse dans le monde, qui veulent plus être gouvernés par des gens.
Et là, le hard rock, etc.
Les textes
tout jazz, là, il y avait hip hop.
L'amour libre, etc. On en reparlera si vous voulez.
Ah, bah, avec plaisir, mais, évidemment.
Vous, on attend ça. L'amour libre qui vous intéresse.
Ah, bah, oui, voilà. D'où c'est fais-moi jouir, Patrick Coutin, fais-moi jouir. Le morceau qui a marqué l'adolescence, et pourtant, hein, on évoquait plutôt le côté un petit peu rock, pop anglaise, mais il y a également. Voilà, celui qu'on appelle le parrain de la soul, celui qui a peut-être inventé la soul ou la funk, en tout cas, il serait à l'origine de tout ça. C'est James Brown. Je voulais qu'on en touche un mot. Vous avez choisi Sex Machine, évidemment, le morceau culte de James Brown. Un mot sur James Brown, quand même.
Alors, James, comment je l'ai découvert? Je suis arrivé avec mes parents à Sarcelles, qui à l'époque était une ville merveilleuse pour un adolescent. C'est une ville toute moderne, toute propre, avec des bâtiments tout neufs. Communauté très diversifiée, il y avait beaucoup de gens qui venaient des Antilles, d'Afrique du Nord, etc. Tout ça vivait très très bien ensemble à l'époque. On n'était pas encore dans les banlieues difficiles que l'on a connues par la suite. Et il y avait, j'habitais au 4e étage et au 12e étage, le dernier étage, il y avait deux jeunes gens, un garçon et une fille, antillais d'origine, magnifique la fille. J'étais là aussi, je cherchais par tous les moyens à l'impressionner. Ah ben bien sûr, c'est pour ça que j'ai acheté ma première guitare. Et eux écoutaient du James Brown. Et je sais pas pourquoi, peut-être parce que les Antilles sont proches de l'Amérique et que cette musique était plus disponible là. Peut-être parce que c'est il y a quelqu'un dans leur famille. Et donc ils écoutaient beaucoup de, ils faisaient des booms chez eux le samedi après-midi régulièrement. Et là, on entendait Otis Redding, James Brown, etc., etc.
Ouais. Et c'était du Aretha Franklin, j'imagine, les Jackson 5 au tout début.
Tout ça, quoi. Cette musique des
musique américaine.
Américaine, d'origine afro-américaine. Et James Brown était quand même très particulier au milieu de tout ça, parce que il était très provocant sexuellement, il dansait de façon étonnante, on le voyait pas beaucoup, mais quand on le voyait, on se disait, mais qu'est-ce que
c'est? Ouais, ça a bougé dans tous les sens, oui.
Et quand même, il faut dire que Like a Sex Machine, c'est un titre qui, en 1966-67, ça faisait tache dans le paysage, quoi. Je veux dire, théoriquement, un bon petit étudiant français bien pâle n'aurait jamais dû aimer ça. Mais moi, je suis toujours un fan intégral de rhythm and blues. Hein. Je peux écouter du rhythm and blues pendant des heures. C'est une musique qui vieillit pas. En plus, parce qu'elle a ce sens du rythme incroyable. Et donc, moi, James, ça a été une espèce de phare dans ma vie. Je me disais, mais quelle liberté, voilà.
Ça, c'est vrai. Et on va l'écouter. On pourra pas le regarder, malheureusement. C'est vrai qu'il y a le jeu de jambes extraordinaire que tout le monde a un peu copié. Prince, Michael Jackson, sont les petits-enfants de James Brown. Ça, c'est l'un des morceaux cultes. Il y en a plein. Mais celui-ci, évidemment, il est au-dessus de tous les autres. C'est le plus populaire, peut-être, de James Brown. C'est Sex Machine. C'est le morceau qui marque l'adolescence de Patrick Coutin dans la playlist de ta vie sur RMC Gold.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm.
difficile, hein. Il y a des gens qui vont m'en vouloir que de ne pas laisser le morceau dans son intégralité. Mais il faut qu'on avance un petit peu. James Brown, voilà. Sex Machine, le morceau qui a marqué l'adolescence de Patrick Coutin, qui est notre invité ce soir dans la playlist de ta vie. On va faire une petite pause dans quelques instants et Patrick, on va revenir un petit peu sur cet album et ce morceau particulièrement qui marque évidemment, sorti en 1981. J'aime regarder les filles. 81, alors, écrit, composé par vous-même.
Oui.
Est-ce qu'il est vrai aussi que ça serait l'un des tout premiers tubes FM?
C'est, je crois, le premier tube FM.
Ah oui, carrément.
Parce que on l'a enregistré en 80 en réalité et c'est un album qui était produit par le studio. Et quand ils ont voulu le vendre, ils n'ont pas trouvé à le vendre. Bon, donc moi j'ai repris ma vie. À l'époque j'étais un petit peu journaliste à Rock et Folk, un petit peu sonorisateur du Gibus, et je jouais avec mon groupe au Gibus. Et un jour, un garçon qui s'appelait Daniel Le Sueur, qui s'appelle toujours Daniel Le Sueur d'ailleurs, nous a dit, mais moi je vais vous produire un album. Il nous a vu sur scène, il nous a dit, c'est super ce que vous faites. On leur a dit, bah tu sais, on sort du plus grand studio du monde, ouais. Personne ne veut de notre musique, donc tu vas...
Château d'Hérouville, d'ailleurs, ouais. On va en reparler après, ouais, parce que ça c'est culte. Ouais.
Voilà. Et donc il est parti avec cette cassette du studio, et il a trouvé 3 ou 4 maisons de disques qui voulaient nous signer, et l'album est sorti le 21 mars 1981. 21 mars 1981... C'est sorti, c'est parti sur toutes les radios et tout le monde a dit, ah non, on ne peut pas passer ça à la radio. Vous rendez pas compte. Et là arrive l'élection de 1980 du président de la République.
Ouais, François Mitterrand.
François Mitterrand. Et là-dessus, toutes les radios qui attendaient, tous les petits libertaires qui voulaient créer, avaient déjà ils avaient tout. Ils avaient les amplifiers, amplis, les tables, etc. Et hop, ils ont
l'autorisation très vite.
Dans les deux premiers mois, ils saisissaient les radios, puis très vite, ils ont dit bon, on va légaliser, vous pouvez y aller. Et parmi les titres, mais surtout celui-là, c'était bon, donc on arrivait en été en plus, mois de juin. Le premier titre qui a été un tube de Radio Libre, ça a été J'aime regarder les filles. Et du coup, RMC, RTL, France Inter se sont mis à le passer, et là c'est devenu...
Il n'y avait pas déjà la voix du lézard, Énergie,
si,
il y avait
tout
déjà...
ça, c'est arrivé comme ça. Énergie est arrivé un tout petit peu plus tard, mais il y avait...
La voix du lézard...
Oui, il y avait toute cette mythique, je veux dire, les noms ne me reviennent pas, mais si on passait 10 minutes, je te les sortirais, y compris des radios libertaires, commençaient à arriver...
Ici et maintenant...
Voilà, ici et maintenant, ici et maintenant, dans une cave du côté d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent, d'ailleurs.
Et donc là, il jouait le titre tout le temps, donc
Il jouait le titre, oui, parce que c'était un titre qui était en rupture avec la chanson française du moment, qui avait des paroles que les grandes ondes avaient hésité à passer, mais que voulaient passer, parce que précisément c'était ce qu'on voulait, c'était changer un peu de monde.
Oui, bien sûr.
Et
puis avec un son, un groove absolument extraordinaire. Remets-le, est-ce que tu aurais la possibilité, Marie-Lou, qui réalise, remets quand même le morceau dont on parle, parce que c'est bien de se le remettre dans les oreilles. Juste l'extrait, le petit hook, là, on va se le remettre comme ça pour que les gens se le remettent quand même dans les oreilles en 1980. Ah oui, voilà. Il y a un groove, c'est incroyable. Il est incroyable. Écrit et composé par Patrick Coutin. Et puis, enregistré dans ce fameux château de Hérouville. Ça, c'est dans le Val d'Oise. Je vais donner quelques noms pour que les auditeurs comprennent bien l'endroit mythique dans lequel les gens sont passés. Parce que vous avez fait cet album-là. Alors, Tom Jones, Elton John, les Bee Gees, mais avec la fièvre du samedi soir à l'époque. Il y a eu Trust, Laurent Voulzy, Fleetwood Mac, Marvin Gaye, Iggy Pop, les Pink Floyd, Dick Rivers, que vous connaissez bien, David Bowie, quasiment l'intégralité ou une grosse partie des albums de Higelin. Et après Rénovation, il y a même eu Gregory Porter, excellentissime dans le jazz, et également Sting, qui sont venus justement dans le Val d'Oise, au château de Hérouville. D'abord, comment vous vous retrouvez à enregistrer ce premier album en 80-81, dans cet endroit mythique, ce château mythique?
Alors, une suite de hasard, donc je viens interviewer Magma.
Ouais.
J'arrive au studio après.
Magma, c'est un grand groupe de rock
de l'époque. Années 70. Ouais. Enfin, 62. Là, on était plutôt en 79.
Là, vous étiez journaliste.
J'étais journaliste à Rock et Folk. J'ai passé plusieurs années journaliste à Rock et Folk, ce qui m'a permis de rencontrer les gens que j'admirais en général.
Vous avez connu Philippe Manœuvre?
J'ai connu Philippe Manœuvre. Il était... c'était un camarade de classe, on va dire. Ouais. Et puis, je viens interviewer Magma, je mets deux heures et demie de train, de... de tout ce que vous pouvez imaginer pour Henri Chat, c'était perdu dans la campagne, au milieu des champs de tournesols, les tournesols de Van Gogh d'ailleurs, qui ont été faits là-bas. Et quand j'arrive, Magma est en pleine crise, ils sont pas contents, je sais pas, ils se mettent sur la gueule littéralement. Et l'ingénieur du son, et aussi qui était un des propriétaires d'Hérouville, Laurent Thibault, qui me prend un peu en pitié, et on discute, on sympathise. Et il me dit à la fin, on dirait que vous êtes musicien, je dis oui, il me dit, si vous avez une cassette, faites-moi écouter, si j'ai un jour de studio libre, on fera des maquettes.
Parce que c'était compliqué d'accéder quand même à cet endroit-là, hein. c'était impossible.
C'était hors de prix déjà.
Déjà hors de prix, puis c'était plus clair, on a cité les noms, c'était les plus grandes stars du monde.
Mais quelquefois il avait un jour de libre, et puis je pense surtout qu'il essayait de se faire excuser de
la situation,
de mon après-midi infernal. Donc j'y crois pas trop, et puis j'y repars pour la sortie de cet album de Magma, qui était un des derniers, si je ne me trompe. Et là, j'avais ma cassette et je lui donne quand même. Et le temps passe et un jour, quelque part vers le mois de mai, si je me souviens bien, il y a un coup de fil et c'est Laurent Thibault qui me dit « Je suis libre dimanche ».
Il y a une journée de libre du château.
Une journée, on va faire deux ou trois chansons en maquette.
D'accord.
Vous venez, vous jouez, je vous enregistre et je vous fais des maquettes. Comme ça, vous pourrez chercher une maison de disques.
Sympa quand même.
Plus que sympa. On met tout dans la Fiat 600 de ma mère, l'ampli basse, l'ampli guitare, les bouts de batterie, les trucs et tout. On y va là-dedans à quatre et on a commencé à enregistrer pour la journée. Et le soir, il nous dit, Jacques Higelin devait arriver demain, mais il est bloqué en Espagne parce qu'il est malade. Et en fait, il n'était pas malade du tout. Il était amoureux d'une rouquine et il ne voulait pas quitter l'Espagne. Bon. Et alors, la bonne idée de Jacques, qui était par ailleurs quelqu'un que je connaissais bien, j'ai beaucoup écrit sur Jacques Higelin à cette période, la bonne idée de Jacques, qui ne savait pas que c'était moi qui étais là-bas, hein, bien sûr, c'était que ça durait 15 jours. Et donc, tous les soirs, Laurent Thibault nous disait, bah, écoutez, Jacques n'arrive pas demain, il n'arrive qu'après-demain, donc on a une journée de plus.
Et au bout du compte,
on a fait un album...
Complet, ce fameux premier album de 80.
Album dans lequel il n'y a jamais regardé.
Ah bah d'accord, et après on a connu l'histoire justement de ces radios libres qui sont arrivées, et le premier tube de l'histoire de la FM. Donc voilà, c'est J'aime regarder les filles, et c'est Patrick Coutin, évidemment. Est-ce que Patrick Coutin aime encore faire la fête?
Oui,
toujours,
bien sûr.
Évidemment, parce que vous avez choisi pour la musique idéale pour faire la fête. Nous, on les adore ici, évidemment, sur RMC Gold. C'est Lerita Mitsuko. Vous avez choisi le morceau Andy. Alors, ça fait sûrement partie des endroits où vous auriez voulu mettre peut-être d'autres titres que celui-là. Vous avez dit c'est peut-être pas simple d'en choisir qu'un, mais Lerita, c'est extraordinaire.
Ne serait-ce que d'autres morceaux d'Lerita. Mais ce morceau sur scène était particulièrement, c'est un morceau qui est enregistré avec des musiciens de rhythm and blues d'ailleurs, puisque c'est très rhythm and blues. Et sur scène, c'était un morceau que je trouvais extraordinaire. Et j'ai connu Fred
Chichin.
Oui, quand il était gamin, lui et un peu ses frères, parce qu'on était dans la banlieue, on a répété à Saint-Denis au même endroit, si je me souviens bien, pendant un moment. Et je trouve que Lerita, c'était un choc dans la musique française. Et tant au niveau musical qu'au niveau vocal, parce que
même au niveau clip,
Et au niveau clip, etc. Avec les plus grands, d'ailleurs, ils ont fait travailler des grands. Et Lerita Mitsuko, ils ont un peu changé le sens de la musique des années 80.
Et ben là, on va s'écouter non pas le Marcia Baila, mais un autre énorme tube d'Lerita Mitsuko. Évidemment, tout le monde le connaît sur le bout des doigts, c'est la musique idéale pour faire la fête. C'est Patrick Coutin qui l'a choisi pour nous sur RMC Gold dans la playlist de ta vie. Le morceau, c'est Andy.
Hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy, quoi.
Et qu'est-ce qu'on aime ça, les Rita Mitsouko, Andy, ça c'est la musique idéale pour faire la fête de Patrick Coutin dans la playlist de ta vie. Qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autre, Patrick, en dehors de ce morceau-là des Rita Mitsouko, s'il y avait eu d'autres choix pour faire la fête, si on met Patrick au platine? Il doit faire danser les gens, là. Il met quoi d'autre?
J'avouerai que j'écoute pas mal de techno en soirée.
Alors
la techno, c'est un peu interchangeable souvent. Ouais. Mais il y a les grands artistes de techno française que tout le monde connaît, de Crécy, etc., etc.
Ouais.
Mais je trouve que la techno, c'est quelque chose qui permet qui donne du temps pour danser, à la soirée, quoi.
Ça, c'est magnifique.
Ça étire le temps.
Bon, on en aura peut-être pas ce soir dans la playlist de ta vie, mais peut-être qu'un de ces quatre, si on fait un spécial mix électro,
oui,
on vous fera venir avec un grand plaisir.
Puis, n'hésitez pas.
Dès qu'il faut parler de musique, évidemment, vous parliez des Traînes de Crécy, évidemment, j'imagine que les Cassius, les oui, Daft Punk, ouais. R et tous les
beaucoup
autres.
Beaucoup de talent dans ce domaine.
Ah oui, exactement. On va continuer évidemment à avancer. J'aimerais qu'on revienne un petit peu aussi, tiens, sur le 31 mars, il y aura le concert pour l'anniversaire des 45 ans du fameux single J'aime regarder les filles. On l'a dit tout à l'heure au début, hein, il y a donc ça va être édité à la fois la version maxi, mais également, ce qui est plutôt dur à trouver, moi j'ai jamais trouvé en bon état en tous les cas, c'est l'album dans lequel et dedans il y aura effectivement Fais-moi jouer, il y aura tout dedans.
Alors c'est un gros débat parce que Fais-moi jouer n'était pas dans l'album officiel.
C'est vrai, ouais,
voilà. Oui. Alors et pourtant il aurait dû y être. Donc on discute là-dessus.
Oh non,
il y a des
tenants. Oh non, il me le faut. Oh non, voilà, faut faire une édition spéciale pour vous.
D'accord, on y va.
Ah oui. C'est toujours sorti en 40. C'est jamais sorti en maxi, ça, le morceau Fais-moi jouer. Il est jamais
non,
sorti en version maxi.
C'est sorti en maxi. C'est sorti sur une réédition déjà.
Ah d'accord.
Dans le même album, on l'avait mis une réédition qui était dans les années 95 ou quelque chose comme ça.
Moi, je vous conseille aux auditeurs. Moi, j'ai la chance d'avoir le maxi de justement. J'aime regarder les filles à la version de 6 minutes là.
Ah, vous avez ça.
Ah, je l'ai.
Très, très rare.
Je l'ai. Oui, je crois que sur la face B, il y a une version plus courte et la version longue que j'ai. Voilà, que j'aurais dû ramener.
7 minutes plus 7 minutes. 6:56, si je me souviens bien.
Exactement.
Spécial radio à l'époque.
Oui.
Spécial DJ.
Ça, c'était très très bon. On va continuer à avancer dans la playlist de ta vie. Tiens, je vais vous laisser le choix. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'album qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous voulez qu'on évoque un petit peu Johnny Hallyday? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous feraient plaisir? Je sais qu'il y a du Lou Reed dont on aurait pu parler. Ou alors on parle de Alain Bachung, parce que là...
Tout ça, c'est extraordinaire. Bon, alors, Bachung, c'est...
Parlons de Bachung, ça, c'est le morceau que vous aimez écouter la nuit, ou en insomnie. Et là, c'est le point commun, parce que... La nuit, je m'en lave les mains. Ça, c'est magnifique. Parlons un petit peu d'Alain Bachung que vous avez, j'imagine, croisé, connu.
Oui, j'ai vu la première fois où j'ai vu Alain Bachung, il était en première partie au Palais des Sports, si je me souviens bien, des Cream. Et je pense que c'est un des premiers grands concerts de rock que j'ai vu de ma vie.
Ah ouais.
Donc, c'est un artiste que j'ai découvert très tôt, bien avant qu'il fasse ses premiers tubes.
Ouais.
Alors Alain, c'est
un peu galéré au début, hein.
Oui,
avant de
galérer, bien sûr.
Qui a bien galéré.
Et puis qui a fait des tubes qui ont marché, mais qui n'ont pas permis de faire la musique qu'il voulait.
Ah oui.
Bah oui, parce qu'Alain c'était un fan de rock. Je dirais même un fan de Presley, un fan de rock américain. C'était sa génération qui était un petit peu avant la mienne. Et évidemment, même si on peut pas cracher sur ses premiers tubes.
Ouais, bah, il y avait Gabi, récemment.
Vertige de l'amour. C'est beaucoup plus tard, mais surtout Gabi, qui a quand même fait beaucoup de sa carrière. Lui, il aurait voulu faire une musique un peu plus proche de la musique américaine. Et il l'a faite, d'ailleurs. Et quelquefois très, très en rupture. Et c'est pas celle qui a marché le plus.
Ouais.
Alors, je sais qu'il était pas fâché, mais ça le chagrinait un petit peu, comme beaucoup de chanteurs français, d'ailleurs, qui aimeraient qu'on les reconnaisse comme des gens qui ont porté du rock, alors qu'on aime bien leurs chansons, simplement parce qu'il y a du texte en français. Mais au bout du compte, il a réussi cette aventure, justement avec l'album dans lequel on tombe sur Madame Rêve, etc., etc. Et avec beaucoup de talent, bien sûr, beaucoup d'opiniâtreté, et en portant une musique, moi sur scène, j'ai vu pas les derniers concerts, mais la tournée d'avant, je trouvais que c'était un artiste fascinant.
Ouais.
Et Bachung, qui était aussi pas très loin de Gainsbourg dans une certaine mesure, c'est un artiste qui marie ces deux choses. Il a des grands auteurs, un peu comme Gainsbourg, folk, etc., etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours composé une musique un peu particulière, spéciale, et qui s'est placé à côté dans sa façon de chanter.
Ouais.
Pour moi, c'est un peu le prototype de l'artiste de rock français, très proche d'Erita Mitsuko dans l'esprit.
Oui, c'est un peu
comme
vrai.
Si ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est un peu vrai, parce que ces artistes-là, on peut écouter, évidemment, on va se pencher sur les textes d'Alain Bachung, mais des fois, tout en l'écoutant chanter, on peut oublier de l'écouter chanter et juste se concentrer sur la musique derrière, qui est quand même assez incroyable. Moi, je me souviens d'un morceau qui s'appelle Tell. Il avait fait les albums d'avant un peu sombres. Et limite, on entendait les introductions des morceaux. Ça aurait été presque des instrus. On aurait pris autant de plaisir à les écouter que lui avec ses textes.
Hein. Absolument. Il y a cette espèce d'envie de créer une musique originale en gardant des racines anglo-saxonnes qui sont le blues, grosso modo, et un peu la country. Et de la faire en français, parce qu'il a toujours eu des très bons auteurs français. Et je trouve que c'est un beau parcours, qui s'est fini un peu tôt, malheureusement, mais en tout cas qui est inspirant.
Ouais.
Se dire, est-ce que Bachung aurait pu faire ça? C'est une façon de mettre l'échelle haute et de dire, ah non, Bachung aurait fait mieux que ça.
D'ailleurs, il a eu les Victoires de la musique, je m'en souviens, il avait fait une interprétation extraordinaire quand il était venu l'interpréter sur la scène des Victoires de la musique à l'époque. Alain Bachung, La nuit je mens, c'est le morceau, voilà, qu'aime écouter la nuit lors des insomnies. Écoutez bien les textes, écoutez également la mélodie derrière, tout est absolument magnifique. Et c'est grâce à Patrick Coutin qu'on écoute ce morceau-là maintenant sur RMC Gold.
On m'a vu dans le verre corps, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire. Tu t'es pas fait prier, j'étais gant de crin, je sais. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. We'll be right back.
à l'élastique. Voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens là.
Magnifique, magnifique, ça c'est, voilà, ça j'adore, j'adore. Alain Bachung, La nuit je mens, c'est le morceau voilà que aime écouter la nuit ou dans des moments d'insomnie. Évidemment, Patrick Coutin, donc on parlait d'Alain Bachung d'ailleurs, qui j'imagine aimait bien vivre la nuit. Lui, c'est dû être un oiseau de nuit, lui.
Oui, hein. C'était un oiseau de nuit.
Ouais, ouais, que vous aviez donc bien
enfin,
connu.
Moi j'ai déjeuné avec lui, donc il arrivait à se lever.
Et ça va, c'est un bavard ou
Non, c'était, il parlait pas beaucoup, il écoutait beaucoup. Donc, il répondait, il avait de l'humour aussi.
Ouais. Donc on peut avoir presque avoir peur de se dire tiens on l'a invité mais il a peut-être pas envie d'être là alors qu'en réalité il y a des gens comme ça qui aiment bien être là mais.
Si si il aimait être là, c'était quelqu'un qui était il aimait être là, il était même il partait pas en courant quoi mais ouais. C'était pas quelqu'un qui s'enflammait dans les discussions. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu comme ça.
On va faire une petite pause de 60 secondes. Et dans cette dernière ligne droite, il nous reste moins d'un quart d'heure. Patrick Coutin, notre invité ce soir. Ah oui, ça passe trop vite. Dans la playlist de ta vie, on va parler de plein de choses. Peut-être qu'on parlera de l'album qui vous a le plus marqué. On évoquera, je ne sais pas, on va voir le morceau pour faire l'amour, le désir ou encore la passion. Et je vois qu'il y a une programmation. Ah oui, la collaboration que vous auriez rêvé de faire. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc peut-être que grâce à cette émission, on en arrivera à le faire. Et on va faire une petite pause de 60 secondes et on se retrouve à tout de suite.
RMC Gold, jusqu'à 23h, la playlist de ta vie. Vous écoutez RMC Gold.
Ça fait plus d'un million d'années que je suis dans le show. As you are, as you were, as I want you. Purple rain,
purple rain. Vous écoutez RMC Gold.
C'est de retour sur RMC Gold.
RMC Gold. RMC Gold, jusqu'à 23h, la playlist de ta vie.
Si on a le temps, évidemment, avec Patrick Coutin, on aura le morceau Plaisir coupable et puis on terminera évidemment avec le questionnaire de réincarnation. On rappelle que Patrick Coutin est sur scène. Ah oui, il est tout le temps sur scène. Pour le 31 mars, il y aura un concert anniversaire des 45 ans du titre J'aime regarder les filles. Le concert aura lieu où
C'est un concert intime. C'est une toute petite salle qui s'appelle L'Utopia, qui est une salle mythique du blues en France, qui est dans le 14e, rue de l'Ouest.
D'accord.
Et c'est un concert pour lequel il faut réserver parce que c'est un concert que je vais faire gratuit.
Ah oui.
Donc, si les gens ne téléphonent pas pour réserver leur place,
il y aura rien du tout.
Bah, ils pourront pas.
Il y aura pas de tournée en province après. Il y aura rien.
Si, je vais faire des dates. Je vais reprendre des dates cette année avec. J'ai fait pendant quelques années les spectacles qui s'appelaient Star 80.
Oui, bah on a reçu, ouais. On en a reçu pas mal avec qui vous avez tourné. Voilà. Donc Michael Jones, entre autres.
Surtout les
Patrick Hernandez. Oui, ils sont venus à votre place.
Hein. Bah, ils viennent.
Ils sont là.
Sur charmant garçon. Mais j'avais un peu arrêté ça parce que d'abord ça prend beaucoup de temps, ça me donnait plus le temps de composer, de faire ce que je voulais. Mais pour cette année, je vais en faire quelques-uns, au coup par coup, hein, sans faire partie d'une tournée. Je suis le 13, 14 et 15 à Besançon et à Dijon, si je ne me trompe. Donc pour les gens qui nous écoutent
évidemment
là-bas, ils vont trouver d'eux-mêmes. Puis je vais faire cette année à partir de septembre. Des concerts à droite et à gauche, il y en aura un à Paris, il y en aura d'autres en province sur un peu pour essayer de fêter tout ça et sortir un nouvel album peut-être au même moment s'il est fini.
Très bien, et bien maintenant on va parler de collaboration que vous auriez rêvé faire, vous avez répondu à cette question, alors ça va être Hubert Félix Tiefen, on va en parler, mais avant cela, avant lui, est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui vous auriez rêvé de collaborer, même des internationaux, des gens qui ne sont malheureusement peut-être plus de ce monde, il y en a ou pas, il y en a beaucoup?
Il y en a tellement.
Allez, deux, trois comme ça, vraiment deux rêves là, le top 3 là.
J'aurais aimé collaborer avec évidemment les Doors, parce que pour moi c'est un groupe qui est important.
Jim Morrison
et tout le groupe, hein, c'est une ouais. musique extraordinaire qui reste très moderne quand on l'écoute aujourd'hui. J'aurais aimé bien évidemment passer du temps avec Dylan, avec Neil Young, parce que c'est que j'ai rencontré par ailleurs, mais jamais une guitare à la main. Et en France, il y a quand même pas mal de gens que j'admire, tout simplement, parce que ben, en tant qu'artiste, j'admire. J'étais assez ami avec Jacques.
Ah, Jacques Dutronc.
Igelin.
Ah, Jacques Igelin, pardon.
Plusieurs fois invité sur scène, j'ai jamais osé monter.
Et pour quelle raison?
Parce que j'étais trop timide pour aller faire le malin à côté de Jacques Igelin.
Johnny peut-être aussi?
Non, Johnny, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'aimais beaucoup Johnny. C'était un mec très cool, très, très gentil, mais j'aurais pas osé non plus monter à côté de Johnny. T'es un monstre, lui.
Hubert, Félix Tiefen, parlons-en, parce que ça, vous avez répondu à cette question, la collaboration que vous rêveriez de faire, ça serait avec lui. Pour quelle raison? Et parlons de cet artiste-là, qu'on n'entend jamais, jamais à la radio, qui passe jamais à la télé, enfin, vraiment qui est...
Et qui pourtant vend des centaines de milliers de disques et remplit les salles.
C'est ce qu'on disait,
comme vous remplissez un verre d'eau.
Oui, voilà, exactement. Un grand verre d'eau.
Peut-être, mais des grandes salles comme vous remplissez un grand verre d'eau. Parce que c'est un artiste que je trouve à la fois atypique. J'aime beaucoup ses paroles. Je sais pas comment il arrive à chanter ses textes, parce que ses textes sont compliqués à chanter. C'est des textes qui n'ont rien à voir avec ce que c'est que la chanson française. C'est des textes très en rupture. C'est une poésie très particulière. C'est aussi à la fois un chanteur de rock, mais aussi un chanteur de musique populaire français. Ouais. J'aime beaucoup sa façon de s'engager et de chanter. Et je sais pas si j'oserais d'ailleurs travailler avec lui, parce que moi, quand j'ai de l'admiration pour les gens, je préfère garder mon admiration et les aduler littéralement. Ça me va très bien comme ça. Mais dans les chanteurs qui sont en activité aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres avec qui j'ai collaboré avec Dick Rivers, avec Delpech à un moment et tout.
Wow.
C'est l'artiste qui m'interpelle le plus.
Eh ben, on va l'écouter un extrait, un morceau justement de Hubert Félix Tiefen. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, parce que nous on nous en parle souvent et voilà, on en joue pas assez sur les radios, on l'entend pas, enfin on le voit très 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 rarement sur les plateaux de télé.
Discret,
oui. Ah oui, très discret. Voici tout de suite Hubert Félix Tiefen dans la playlist de ta vie de Patrick Coutin, évidemment sur RMC Gold.
escale masquant leur nostalgie. Ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leurs lignes et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Se traîne chez les Borgias, suivi d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, puis s'enfonce comme des rats dans leur banlieue bye-bye, essayant d'accrocher un regard à leur cool. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moins, et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poules s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mamour. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, mais maintenant ils s'écroulent dans l'eau.
Hubert, Félix TFN, dans la collaboration qu'on aurait rêvé ou que rêverait de faire Patrick Coutant. Il rêverait à la fois, vous l'avez dit, bon, vous préférez que ça reste un rêve, justement. Les...
Oui, ben c'est bien qu'il
rêve. Comme un fantasme. Alors, un fantasme, ça se réalise pas. Alors, c'est presque du fantasme.
Mais un rêve qui se réalise pas, c'est pas mal, non.
Vous avez eu l'occasion quand même de discuter un peu avec lui, d'échanger ou...
Non, je l'ai croisé en studio, où il était un jour en Belgique, mais bon, c'est quelqu'un qui est pas... il est pas en train de rigoler, quoi. Ouais. Alors, bah, j'étais pas en train de rigoler à ce moment-là. Je me suis pas senti d'aller lui dire, monsieur, je vous admire beaucoup.
On va terminer avec le questionnaire de réincarnation. Question-réponse immédiate de Patrick Coutant. Patrick Coutant, si vous étiez un morceau.
Hey, my, ouais, Neil Young.
Exactement. Si vous étiez un style de musique.
Rhythm and blues.
Si vous étiez un chanteur ou une chanteuse.
Neil Young à nouveau.
Si vous étiez un groupe.
Led Zepp.
Si vous étiez une danse.
Le cha-cha-cha, parce que c'est un truc que je comprends pas qu'on ne m'a rien annoncé ça.
Si vous étiez un instrument.
La guitare.
Si vous étiez un clip.
Purple Rain de Prince.
Ah, si vous étiez une bande originale.
Apple Fiction.
Évidemment. Si vous étiez un générique de télé.
Zorro.
On l'a évoqué. Et si vous étiez un générique de dessin animé.
Alors, Wolfie, vous savez, le loup qui hurle
oui,
à chaque fois qu'il voit une jolie fille.
Enfin, là. Magnifique.
On n'a pas le droit de faire, hein. On n'a pas le droit de hurler à chaque fois.
Tiens, j'ai un petit mot rapidement sur le clip. On a 30 secondes sur, d'ailleurs, Prince, Purple Rain. Donc, il y a le clip, mais l'artiste en lui-même. Ça, c'est des choses qui vous, évidemment, qui vous plaît. Vous êtes sensible à Prince, tout sous l'univers
sûr,
de Prince.
Bien sûr, je suis sensible à Prince parce que c'est gigantesque, Prince, hein.
Ouais.
C'est un génie. Et je me souviens l'avoir vu, notamment avoir vu Purple Rain sur scène avec lui, à Bercy. On était tous là, il y avait 50 artistes français, on est tous sortis comme si on avait un poids d'une tonne sur le dos parce qu'on se disait mais comment il fait pour être aussi bon.
Ouais. C'est comme dans le foot, il y a certains qui disent ouais on fait pas le même métier, voilà, quand ça. On parle de Zidane, de Messi, vous vous êtes dit en sortant, on fait pas le même métier.
Tout le monde, il y avait Johnny, il y avait Eddie, tout le monde était là, tout le monde est sorti avec en disant ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'était en quelle année ça? Vous vous souvenez de l'époque?
C'était la tournée qui est passée juste après la tournée Purple Rain.
Ah oui.
La tournée d'après.
D'accord.
Il y avait Shilai, etc., etc.
Ouais.
C'était.
Il y avait Kiss, peut-être le morceau Girls and Boys aussi qu'il avait fait, 85, 86, ouais.
C'était. En plus, une mise en place musicale de danse, parce qu'il y avait tout dedans. Lui danser, bah il chantait, il jouait de la guitare, il aurait pu jouer de la batterie ou de la basse. Et c'était d'une précision, les costumes changeaient entre chaque morceau. On se demande comment il faisait. Il sortait, il rentrait, il était habillé en mauve, il sortait, il arrivait habillé en vert. C'était hallucinant, quoi.
Prince and the Revolution, ça c'est magnifique. Voilà, Purple Rain qu'on écoute en fond musical. Ça a été un bonheur de vous recevoir dans la playlist de
Tavi. Un bonheur d'être avec vous, merci.
Ah ben vraiment, et on rappelle, bon, y a plein d'actualités. 31 mars, concert anniversaire des 45 ans du morceau J'aime regarder les filles. On rappelle juste l'endroit.
Ça se passe à l'Utopia, c'est 79 rue de l'Ouest.
Et concert gratuit.
À Paris, dans le 14e, c'est un concert gratuit. Donc il faut téléphoner avant et essayer de réserver.
Très bien,
parce
merci.
C'est un endroit où on ne rentre pas quand c'est plein, quoi.
Ah, évidemment, quand c'est plein, c'est plein, c'est plus la peine. Merci Patrick d'être venu dans les studios et au plaisir de vous retrouver de nouveau parmi nous. Merci, bonne soirée et merci, on se retrouve dans un instant pour le mix de Max. À tout de suite.
RMC Gold, jusqu'à 23h, la playlist de ta vie.